France Culture.
Et le journal vous est présenté par Véronique Robérod. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Libre, après plus de 41 ans dans les prisons françaises, le Libanais Georges Ibrahim Abdallah sera libéré la semaine prochaine sous condition, notamment celle de quitter le territoire français pour celui qui a été condamné pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens. Julien Grohard a pu joindre un des membres de son comité de soutien. Il lui a rendu visite ce matin, vous l'entendrez dans ce journal. Des dispositifs qui manquent de transparence. Après le Sénat, le Haut Commissariat à la stratégie et au plan propose ses services pour évaluer les différents dispositifs qui s'accumulent au montant considérable, 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises distribuées en 2023. À l'étranger, l'église catholique de la Sainte Famille bombardée à Gaza, église placée sous la protection historique de la France. 3 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées, dont le père de la paroisse. Sa libération a été assortie de plusieurs conditions. Quitter le territoire national français et ne plus jamais y revenir. Quitter la France, où Georges Ibrahim Abdallah était emprisonné pendant 41 ans, condamné pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens. Libérable depuis 25 ans, les demandes de remise en liberté de l'un des plus anciens détenus de France avaient toutes été refusées jusque-là. Ce matin, la Cour d'appel de Paris a ordonné la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Un des membres de son comité de soutien, José Navarro, a pu lui rendre visite dans la matinée, dans la prison de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Bonsoir Julien Grohard.
Bonsoir.
Vous avez pu joindre José Navarro, qui était présent donc quelques instants après que Georges Ibrahim Abdallah a appris la nouvelle de sa libération.
Oui, ce matin, à l'annonce du verdict de la cour d'appel, il a pu obtenir un parloir à la prison de Lannemezan. 1h15 de discussion, beaucoup d'émotions évidemment et des interrogations déjà très pratiques sur l'avenir des objets accumulés après tant d'années passées en détention.
Ça se bouscule un peu dans sa tête. Vous savez, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui a beaucoup de livres, qui a accumulé beaucoup de journaux et qui aujourd'hui se préoccupe aussi de savoir qu'est-ce qui va en être, même s'il en a déjà fait sortir beaucoup. Vous voyez, ce type de préoccupation très basique, il va sortir après 42 ans de détention. Dans la vie au quotidien, les choses en 42 ans ont connu une révolution, même au Liban, énorme.
Alors Julien, on ne connaît pas encore les détails de la sortie de prison de Georges Ibrahim Abdallah. On sait juste qu'il sera a priori conduit de la prison, d'abord à l'aéroport de Tarbes.
Oui, pour être ensuite emmené à l'aéroport de Roissy, d'où il devrait partir vers Beyrouth, escorté par plusieurs policiers français. Même si le Liban s'est dit prêt à l'accueillir, un tel retour comporte des risques. Les soutiens de Georges Ibrahim Abdallah réclament des garanties de sécurité aux autorités françaises.
Compte tenu de la situation aujourd'hui du Moyen-Orient, compte tenu de toutes les pressions politiques et diplomatiques à la fois des États-Unis et d'Israël, il y a une inquiétude. Mais chez lui, ce n'est pas l'inquiétude vis-à-vis de lui, c'est surtout celui de sa famille, de ses proches. Donc nous, on va insister tout à l'heure, lorsqu'on aura les conseillers de Monsieur Macron, sur cette question de sécurisation, pour que cet homme qui a vu passer 42 années de sa vie puisse enfin vivre aux côtés de ses proches et vivre tout court.
Georges Ibrahim Abdallah sera libéré le 25 juillet prochain.
Merci Julien Grohard. Dans un communiqué, les députés La France Insoumise saluent la victoire du mouvement anticolonial et de l'État de droit et rendent hommage à ce défenseur infatigable de la cause palestinienne. Les élus et les filles qui se réjouissent de la libération du terroriste Ibrahim Abdallah passent un nouveau cap dans l'indignité, leur répond le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le parquet de Paris requiert un procès contre Jean-Vincent Placé, l'ex-secrétaire d'État écologiste, est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une ancienne collaboratrice en 2016 et une autre femme en 2017. Le ministère public a demandé un procès devant le tribunal correctionnel pour ce dossier instruit depuis 2022. C'était l'une des premières affaires MeToo visant un homme politique. Bien malin, celui qui aujourd'hui s'y retrouve dans les dispositifs d'aide aux entreprises. Pourtant, les sommes distribuées sont considérables. 211 milliards d'euros d'aide versées en 2023 aux entreprises, selon une commission d'enquête sénatoriale. Elle a rendu un rapport sur le sujet en tout début de mois et pointait un vrai manque de transparence. Après les sénateurs et dans une note publiée aujourd'hui, le Haut Commissariat à la stratégie et au plan propose lui aussi d'y voir un peu plus clair dans des dispositifs d'aide qui se sont accumulés et que on a du mal à évaluer. Car, Wafia Kenich, entre subventions, aides financières, dépenses fiscales, tout ça manque de lisibilité, de visibilité, estime le haut commissaire au plan, Clément Beaune.
Il y a 100 milliards de différence entre le rapport des sénateurs et la note du Haut Commissariat au plan. L'instance rattachée directement au Premier ministre a choisi de ne pas comptabiliser les allègements de cotisations sociales. Mais au-delà de la dissonance comptable, le constat est le même, manque de transparence et de lisibilité. Clément Beaune.
Ce qui nous semble très important, c'est de définir un périmètre qui sera une convention, qui ne sera pas une perfection. On est prêt d'ailleurs, c'est ce que propose le Sénat, nous, au Commissariat à la stratégie au plan, à définir ce périmètre, à prendre quelques mois pour concerter avec les partenaires sociaux, avec les administrations concernées, fixer un périmètre qui aura des avantages et des inconvénients, mais qui aura le mérite d'être stable, et de comparer d'une année sur l'autre dans ce périmètre constant. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est de voir s'il y a une évolution, une augmentation, etc.
De l'argent public perdu dans les méandres de centaines de dispositifs et qui profite à certains plus qu'à d'autres, poursuit Clément Beaune.
Les grands groupes sont forcément mieux armés pour affronter cette complexité, cette multiplicité que les petites entreprises. Et puis l'autre point, c'est l'évaluation. L'idée, c'est de pouvoir évaluer au moins les plus gros dispositifs à échéance régulière, avec une méthode d'évaluation fixe. On est prêt à le faire. Et je pense que ça mettrait là aussi de la clarté, de la transparence dans ces dispositifs compliqués.
L'une des propositions du Sénat et du Commissariat au plan est d'ailleurs de publier en annexe du budget le bilan annuel de ces aides aux entreprises, un document qui deviendrait public et transparent.
Najat Vallaud-Belkacem arrive à la Cour des comptes par une procédure de recrutement professionnel parfaitement objectif, et savoir le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui se défend d'être le copain de l'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, comme le prétend le Rassemblement national. L'actuelle présidente de France Terre d'Asile a été nommée hier conseillère maître à la Cour des comptes, une nomination jugée scandaleuse par le RN qui fustige la République des coquines et des coquins. Le RN promet d'attaquer cette nomination devant le Conseil d'État. Les représentations des Français sur les drogues licites et illicites évoluent. C'est ce que démontre une enquête publiée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Réalisée en 2023, cette enquête montre que le tabac et l'alcool sont désormais plus souvent perçus comme dangereux, alors que la cocaïne et le cannabis apparaissent comme moins menaçants. 44% des Français interrogés estiment ainsi que le cannabis ne devient dangereux qu'en cas d'usage quotidien. Julie Paco a joint Guillaume Héragne, il est le directeur de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
Pour les drogues illicites, par exemple le cannabis ou la cocaïne, les Français perçoivent leur dangerosité comme moindre par rapport à ce qu'ils percevaient dans les vagues précédentes de l'enquête, alors que par ailleurs, c'est des produits qui sont plus dangereux qu'avant parce que plus concentrés en principe actif. Par exemple, pour le cannabis, la concentration en THC, qui est le principal principe actif dans le cannabis, a doublé ces 15 dernières années. Et paradoxalement, la dangerosité perçue a baissé. Donc, c'est aussi en lien avec le fait, pour la cocaïne en particulier, que les usages ont augmenté en population générale. On la considère comme moins dangereuse. Toutes les drogues n'augmentent pas, hein, loin de là. On est même plutôt à la baisse pour les usages de drogues, qu'elles soient licites ou illicites, chez les mineurs. Ce qui augmente, effectivement, c'est une famille particulière de drogues, et chez les adultes, pas chez les jeunes, c'est la famille des psychostimulants. Et cette augmentation, elle est là effectivement très préoccupante, puisqu'elle est exponentielle, et elle est portée principalement par deux substances, la cocaïne et le principal psychostimulant de synthèse, qui est la MDMA ecstasy.
Ça ne s'est pas arrangé avec l'invasion en Ukraine. La liberté d'expression en Russie est restreinte, très encadrée, c'est rien de le dire. Ceux qui portent une parole publique sont tout particulièrement concernés, les artistes par exemple, avec deux attitudes possibles lorsqu'ils se produisent à l'étranger. Certains dénoncent le régime ou d'autres adoptent une certaine neutralité. C'est le cas de la DJ russe Nina Kravitz, dont la venue au Festival des Vieilles Charrues ce soir est dénoncée par plusieurs associations ukrainiennes en France qui manifestent pour exiger sa déprogrammation. Elle dénonce le fait qu'elle n'a jamais publiquement affirmé son opposition à Vladimir Poutine ni à l'invasion de l'Ukraine et qu'elle se cache, selon elle, derrière une fausse neutralité en se disant seulement « pour la paix ». Adrien Toffolet a joint Lucie Kampf, elle est maître de conférences en études russes à l'Université de Lorraine. Elle analyse cette apparente neutralité.
Les positions de neutralité, en général, c'est soit de la peur, soit de l'approbation. Parce que quelqu'un qui dit « je suis pour la paix » en ce moment ne dit rien d'autre que ce que répète à longueur d'intervention Vladimir Poutine. Je suis pour la paix et s'il y a la guerre, c'est à cause des nazis ukrainiens. C'est le pacifisme utilisé comme arme idéologique. Après, vous avez des gens qui modèrent leur discours parce qu'ils ont de la famille en Russie et qu'ils ont peur pour leur famille. Par exemple, j'ai une jeune collègue, elle est pas artiste, mais elle écrit une thèse sur un sujet un peu controversé. Elle fait très attention à ses interventions publiques à cause de ça, pour ne pas menacer sa famille. C'est extrêmement compliqué, mais ça l'est d'autant plus pour ceux qui sont restés dans le pays, en Russie, parce que ne serait-ce que dans le vocabulaire, il y a un certain nombre de termes qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser, parce qu'ils risquent l'arrestation. Et la censure est devenue extrêmement pointilleuse, les financements pour les spectacles et les productions aussi. Et donc, ceux qui ont choisi de rester, comme par exemple le théâtre Doc, il y a une partie de la troupe qui est restée à Moscou et qui tente de fonctionner tant bien que mal avec leurs spectacles, disons les moins agressifs à l'égard du régime, mais c'est dangereux pour eux.
Pas de technoparade cette année dans les rues de Paris. L'édition 2025 a été annulée par ses organisateurs pour des raisons financières. L'événement est principalement soutenu par des marques privées. Or, celles-ci sont de plus en plus difficiles à mobiliser, a dit l'association Technopole qui organise donc l'événement depuis 1998. L'association Technopole promet de revenir en 2026 avec une édition encore plus ambitieuse. Le pape Léon XIV a été l'un des premiers à réagir, à exprimer sa tristesse, mais sans nommer Israël. Une attaque aérienne sur l'église de la Sainte Famille de Gaza, seule paroisse catholique de l'enclave palestinienne, a fait 3 victimes et plusieurs blessés, dont le prêtre de la paroisse. Israël affirme ne jamais viser des sites religieux et d'y examiner les circonstances dans lesquelles l'église a été touchée. À Gaza, Rami Al-Maghari a recueilli des témoignages sur place. Écoutez son reportage avec Thibault Lefebvre à Jérusalem.
Parmi les 3 victimes, Najwa Abou Daoud, son fils témoignait ce midi au micro de Rami Al-Maghari, alors que sa maman était encore entre la vie et la mort.
La frappe est survenue ce matin, les gens terminaient leur prière dans la cour de l'église, un missile a touché le bâtiment et de nombreux éclats ont touché les personnes présentes. Ma mère a été blessée à la tête, nous ne sommes que des civils pacifiques.
L'église de la Sainte Famille abrite au centre de la ville de Gaza un peu moins de 600 déplacés. Il y a 2 jours, ils ont, selon le patriarcat catholique de Jérusalem, reçu un ordre d'évacuation, ordre qu'ils n'ont pas suivi, se pensant protégés. Pour le porte-parole de la défense civile Mahmoud Bassal, même les lieux de culte ne sont plus sanctuarisés.
Les églises, les mosquées, les écoles, les abris, les civils, tout est une cible à Gaza. Voilà pourquoi notre message au monde est clair. Il faut protéger les civils. Nous adressons ce message à la communauté internationale, aux organisations internationales. Venez nous aider.
L'armée israélienne a déclaré mener une enquête. Le ministère des Affaires étrangères a précisé que l'État hébreu ne ciblait jamais de sites religieux.
En Syrie, Ahmad el-Sharet, le président syrien, a retiré ses troupes de la ville de Soueida, à majorité druze dans le sud du pays. Le président syrien dit vouloir éviter une guerre ouverte avec Israël. Israël avait menacé d'intensifier ses frappes si le pouvoir syrien ne quittait pas cette province du sud, où des affrontements intercommunautaires impliquant druzes et bédouins ont fait plus de 500 morts depuis dimanche dernier. Des coupes par milliards de dollars et un beau gâchis. Le Sénat américain a voté ce jour de nouvelles coupes budgétaires réclamées par Donald Trump. 1 milliard de dollars en moins pour la radio publique et 8 milliards de dollars en moins pour l'aide internationale. Cet argent était destiné initialement à l'agence USLAD, l'agence qui gère cette aide, mais qui a fermé le 1er juillet à la demande du président américain. Et ce vote intervient alors qu'au même moment, on apprend que des tonnes de nourriture destinées à des enfants en malnutrition dans le monde vont être incinérées car périmées. L'affaire embarrasse le gouvernement américain. À Washington, Agira Mohamed.
Selon plusieurs médias américains, 500 tonnes d'aliments seront bientôt brûlées car périmées depuis le début du mois. On parle surtout de biscuits à haute valeur énergétique qui auraient dû être envoyés au Pakistan et en Afghanistan pour nourrir en urgence des milliers d'enfants en malnutrition. Stockés dans un entrepôt à Dubaï, ils avaient été achetés l'an dernier par l'ancienne administration de Joe Biden pour 800 000 $ et leur destruction va coûter 130 000 $ aux contribuables américains. Un grand gâchis pour l'opposition démocrate qui accuse le gouvernement d'avoir volontairement laissé cette nourriture se périmer plutôt que de la distribuer. À cause de ces décisions chaotiques, des enfants vont souffrir de faim, déclare la sénatrice Jan Shaheen. Interrogé par des journalistes hier, Michael Rigas, un des responsables au département d'État, s'est dit affligé et reconnaît très gêné que cette perte d'aliments est une victime de la fermeture de l'USAID, l'agence américaine pour le développement international.
Un mot du temps, demain vendredi 18 juillet, tendance orageuse sur l'ouest, plutôt nuageux au nord et ensoleillé à l'est et au sud. C'est la fin de cette édition, elle a été réalisée par Annie Brou à la technique, et lise-le.